le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour, 2,5 millions de francs de déficit, budget rouge vif prévu à Delémont. Cette année, la ville ne vit pourtant pas au-dessus de ses moyens, nous dira le maire Damien Chapuis. La Suisse, dans le top 10 des pays les moins touchés par la corruption, 7e selon le dernier classement mondial de l'indice de corruption de l'ONG Transparency International. Elle recule néanmoins de 4 places. Dernière répétition avant les Jeux pour les slalomeurs suisses, Schladming et son célèbre slalom nocturne au programme ce soir en Autriche, piste qui a rarement souri aux Helvètes. Du soleil demain encore sur le Jura, il percera après dissipation des brouillards matinaux, quelques nuages mais un ciel clair sur les hauteurs, température comprise entre moins 3 et 5 degrés. Delémont voit à nouveau la vie en rouge. Le budget 2022 de la ville prévoit un déficit de 2,5 millions de francs. Il a été présenté ce matin par les autorités communales et encore 2,5 millions doivent être prélevés dans la réserve conjoncturelle pour atteindre ce résultat, réserve qui est désormais vide. L'exécutif delémontain évoque plusieurs facteurs pour expliquer ce déficit. Il estime cependant ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre par rapport aux prestations proposées à la population. Le maire Damien Chapuis.
Je ne pense pas du tout. Delémont doit faire face à une situation qui est assez problématique avec la réforme fiscale, la fameuse RFFA, qui est encore à prendre en considération et qui plombe le budget communal à hauteur de 2,550 000 francs. Également, et pour la dernière fois, c'est un bien pour les collectivités publiques, cette baisse linéaire de 1% des impôts au niveau des personnes physiques, qui représente également un montant de 400 000 francs. Si on additionne que ces deux chiffres, on remarque qu'on a 3 millions de pertes au niveau de la commune sur un déficit qui est estimé à 2,5 millions de francs au niveau économique du terme. Donc on n'a pas les yeux plus gros que le ventre. Par contre, bien évidemment, il y a des décisions et des démarches qui devront être entreprises pour pouvoir corriger le tir.
Néanmoins, si on prend l'exemple des transports publics, il y a de nouvelles prestations à Delémont, le personnel communal également. Il y avait eu cette décision d'augmenter les effectifs en 2018. Tout le monde est là désormais. Ce sont quand même des charges supplémentaires. Est-ce qu'on n'a pas été trop loin quand même?
Non, le conseil communal fait des propositions à l'intention du conseil de ville, et puis c'est le conseil de ville qui se déterminera par la suite. Oui, on offre un panel plus important au niveau des transports publics, on a des prestations à fournir à l'ensemble de la population, d'où la nécessité d'avoir le personnel à disposition. Ce sont des choix qui ont été effectués, on les prend en considération actuellement. Si le conseil de ville veut faire d'autres propositions, libre à lui de les faire lors de la séance plénière du 31 janvier prochain.
Damien Chapuis qui répondait à Raphaël Chalvera. Malgré ce budget déficitaire, Delémont désire maintenir des investissements conséquents pour développer la ville et favoriser la relance économique post-Covid. 35 millions de francs sont prévus, 18 millions à financer par le compte de résultats, 17 millions autofinancés par les services. Le conseil de ville se penchera sur le budget lundi prochain. La Banque cantonale du Jura présente, elle, des chiffres réjouissants. Malgré la pandémie, l'économie a su rebondir l'année dernière. Le bénéfice net de la BCJ s'élève à 9,7 millions de francs, une hausse de 37% par rapport à 2020. Pour la première fois, le total du bilan dépasse les 4 milliards de francs, selon le communiqué de presse transmis ce matin. On reviendra sur cette actualité financière dans le journal de 18h. C'est l'une des grandes questions que les jurassiens devront trancher le 13 février. Doit-on savoir comment sont financés nos partis politiques qui font campagne? Oui, selon l'initiative Partis politiques place à la transparence, gauche et droite en ont débattu ce mardi dans la matinale. Le texte porté par le Parti socialiste veut que l'identité des personnes physiques soit rendue publique dès lors qu'elle donne 750 francs à un parti. Celle des personnes morales doit être connue dès le premier franc. C'est ce que défend le député socialiste Fabrice Maca.
La population, pour se forger une opinion, a besoin de savoir d'où vient l'argent. Et puis on parle beaucoup de partis politiques, on focalise sur les partis politiques, mais il n'y a pas que les partis politiques. Il y a aussi tous les comités de campagne lors de votations. Et puis là aussi, c'est très important. On imagine une votation sur une caisse maladie. Je pense que la population a besoin de savoir si derrière, il y a des associations justement de caisses maladies qui renflouent les caisses de partis ou d'associations qui voudraient couler, par exemple, une votation sur une caisse unique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir ça, on a besoin de savoir d'où viennent ces montants. Et puis ce 750 francs, je pense qu'il est réaliste dans le canton du Jura. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de jurassiens qui font des dons de 1000 francs ou des grosses sommes pour des partis politiques. Je ne sais pas, si un couple donne chacun 750 francs, ça fait déjà 1500 francs. Pour moi, c'est déjà une très grande somme. Puis je pense que pour beaucoup de personnes, c'est déjà une très grande somme. Puis encore une fois, quelle est la honte de dire qu'on a soutenu un parti politique? On a des valeurs, on a des convictions, on n'a pas honte de les afficher.
Et cette initiative du PSJ est combattue par un contre-projet du Parlement jurassien. La majorité de droite estime que le texte tel que proposé limite le débat aux législatives pour sa réalisation. La limite de 750 francs est notamment pointée du doigt. Les défenseurs du contre-projet, dont le député PDC Serge Beuret, veulent davantage de marge de manœuvre.
Des limites fixes, il en faut. Le tout est de savoir où on les pose. Une petite recherche m'a permis de constater qu'à Neuchâtel, c'est 5 000 francs. À Fribourg, c'est 5 000 francs aussi. Donc ici, on va extrêmement bas.
Ça vous dérange ?
Alors, par rapport à la paperasserie que ça va donner des listes qui pourront être très importantes. On n'a encore pas de projection, mais on peut l'imaginer. Et puis, il y a aussi les personnes morales. Là, c'est à partir du premier franc, comme le dit le gouvernement dans son message. Les personnes morales, ce ne sont pas que les entreprises, ce sont aussi les associations, les fondations. Si vous avez, par exemple, le VVF qui donne 20 francs à un parti vert, eh bien, ça devrait être publié. Et puis, si là où le secrétaire du Parti vert omet ce don de 20 francs, eh bien, il risque une amende avec dénonciation au procureur. Donc, nous trouvons ça complètement inadéquat. Il faut qu'on puisse légiférer à tête reposée après avoir fait des comparatifs et après avoir discuté chaque point plutôt que d'avoir un texte à moitié rédigé.
Serge Beuret et Fabrice Maca qui répondaient à Raphaël Chalvera ce matin. L'intégralité de ce débat sur la transparence des partis politiques est à retrouver en vidéo sur notre site internet rfj.ch. Le Swatch Group renoue avec les bénéfices en 2021. La mauvaise conjoncture liée à la pandémie de l'année précédente semble désormais derrière l'entreprise horlogère. Elle enregistre un bénéfice net de 774 millions de francs. 2020 avait été à l'inverse débouché sur une perte de 53 millions. Un redressement spectaculaire, Audrey Mondi.
Un chiffre d'affaires en hausse de 30,7% en 2021 à 7,3 milliards de francs, le Swatch Group se rapproche de son niveau d'avant-crise. L'entreprise horlogère avait subi de plein fouet la crise liée au coronavirus et ses ventes avaient chuté en 2020. Le groupe avait dû partiellement fermer ses boutiques et ses manufactures en raison des confinements à travers le monde. Mais ce n'est désormais plus qu'un souvenir. En 2021, les États-Unis et la Chine en particulier ont réalisé des recettes records, a précisé ce matin l'horloger biennois dans un communiqué. Les restrictions de voyage encore très fortes selon les pays ont conduit à des déplacements du chiffre d'affaires. Comme beaucoup de ses concurrents, le Swatch Group a observé un rapatriement des achats vers la Chine, où les acheteurs se sont montrés très friands d'articles de luxe en général. Dans ses propres boutiques, l'entreprise a enregistré des ventes stables sur 2 ans, malgré une diminution de 22% du nombre de magasins. Cette année, la direction anticipe un taux de croissance à 2 chiffres au niveau des ventes.
Et avant la crise en 2019, le chiffre d'affaires du Swatch Group avait atteint 8,2 milliards de francs. La Suisse reste parmi les 10 pays les moins touchés par la corruption. C'est du moins ce qui ressort du dernier classement mondial de l'indice de corruption de l'ONG Transparency International. La Suisse rétrograde néanmoins à la 7e place en 2021, derrière le trio de tête Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande. Le directeur de la section suisse de l'ONG, Martin Hitley, explique les raisons de ce recul.
La Suisse recule d'une part par sa propre faute, d'autre part la Suisse a reculé parce que d'autres pays se sont améliorés et ont dépassé la Suisse. Cependant, il ne faut pas accorder trop d'importance à ces changements plutôt mineurs de classement et de points. Néanmoins, nous devrions quand même prendre au sérieux que nous avons reculé de quand même 4 places. Nous avons fait des progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent pendant les derniers 15-20 ans, mais on a toujours des lacunes importantes comparées au standard minimal qui s'est établi au niveau international. C'est surtout des domaines hors bancaire. Donc ce sont des gens comme des avocats qui aident aux criminels d'investir ou cacher leur argent illégal.
Et les pays les plus mal classés sont la Somalie, la Syrie et le Soudan du Sud. Chez nos voisins européens, l'Allemagne est devant l'Autriche, la France et l'Italie qui ferment ce peloton. Parmi les pays les moins corrompus, ce qui n'empêche pas l'ancien patron de la banque Raiffeisen de se retrouver devant la justice. Son procès s'est ouvert ce matin à Zurich. Pierrine Vincenz est notamment accusé d'escroquerie par métier, de gestion déloyale et de corruption passive. Son avocat a demandé un report du procès. Un des accusés n'est en effet pas présent car il est atteint du Covid et se retrouve en isolement.
Vous écoutez RFJ, il est 12h25. sport.
Le hockey sur glace amateur va bel et bien reprendre. Décision communiquée aujourd'hui par la Régioligue et le comité du sport espoir et amateur. Les championnats de la première à la quatrième ligue vont reprendre dès vendredi, alors qu'ils sont interrompus depuis plus d'un mois. D'après les instances, la grande majorité des clubs est d'accord pour reprendre la compétition. Les play-offs devraient par ailleurs se dérouler comme prévu. Le HC Ajoie va lui défier tous les gros bras cette semaine. La formation jurassienne de National League de hockey sur glace affronte les trois membres du podium en 4 jours. Réception du 3e Rapperswil ce soir, puis Fribourg jeudi avant d'aller défier Zoug vendredi. Le HCA n'aura donc rien à perdre et pourra s'appuyer sur ses dernières sorties, Michel Léoni.
Oui, des dernières sorties qui ont été encourageantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'en est fallu de 3 toutes petites minutes pour qu'Ajoie renverse Lausanne avant-hier par exemple. Les Jurassiens ont d'ailleurs inscrit 4 buts à la Vaudoise Arena, ce qui n'était jamais arrivé cette saison en déplacement. Offensivement, la machine tourne plutôt bien malgré les absences. 10 buts marqués lors des 3 dernières sorties, nettement mieux que la moyenne sur la saison. On a aussi et surtout vu une équipe soudée envers et contre tout pour le plus grand bonheur du capitaine du HCA, Jordan Huerta.
C'est une de mes priorités, je dirais, un de mes plus gros objectifs et travail en tant que capitaine, c'est de veiller à ce que l'ambiance d'équipe reste saine, que les joueurs restent soudés surtout et pas commencer de se pointer du doigt l'un l'autre, parce que là ça deviendrait très difficile, donc c'est pas du tout le cas. Et c'est primordial pour nous et on le voit sur la glace, ça prend un petit peu, ça fait 2-3 matchs qu'on joue mieux, qu'on a retrouvé cette intensité, on a retrouvé cette énergie qui nous manquait un peu. J'ai pas de doute là-dessus qu'une fois ou l'autre, on va quand même réussir à gagner un match, j'espère en tout cas.
Et ça passera donc par une grosse performance dès ce soir contre Rapperswil. Au bout de cette semaine intense, il y aura une trêve de match d'un mois en raison des Jeux Olympiques.
Et Ajoie Rapperswil, c'est à vivre en direct et en intégralité ce soir sur RFJ dès 19h30. Ce sera avec Mathieu Schaffner et notre consultant David Erard. Les skieuses suisses hors du coup après la première manche du géant de Coupe du Monde de Kronplatz en Italie. La meilleure d'entre elles, Michelle Gisin, a pris le 11e rang ce matin sur le premier tracé. Camille Rast, 22e. Simone Wilt, 23e. Andrea Ellenberger, 27e. Et Vanessa Kasper, 30e, prendront le départ de la deuxième manche à 13h30. C'est la Slovaque Petra Vlova qui mène le bal devant la Suédoise Sarah Hector et l'Américaine Michaela Schifrin. Chez les hommes, cette fois, c'est un dernier slalom avant les Jeux Olympiques qui est prévu aujourd'hui et pas n'importe lequel. Schladming et sa fameuse course nocturne dès 17h45. Les Suisses, qui n'ont pas tous brillé depuis le début de la saison dans la discipline, vont essayer de faire le plein de confiance avant de s'envoler pour Pékin. Rien de mieux que la mythique course autrichienne pour se jauger. Mais cette planète, le nom de la piste, n'a jamais été très clémente avec les slalomeurs helvètes. L'éclairage de Jan Elsler.
Schladming, Planaille, la Night Race, les mots ne manquent pas pour le slalom le plus mythique du circuit. Ce soir, dès 17h45, la planète ski aura les yeux tournés vers la station autrichienne. À quelques jours des Jeux Olympiques, cette question, un Suisse va-t-il enfin remporter ce monument qui n'a jamais vu de triomphe helvétique ? Car outre la deuxième place de Sylvain Zurbriggen en 2010, Daniel Juhl a terminé 3 fois de suite sur la dernière marche du podium de 2017 à 2020. À la peine l'an passé avec une élimination, le Valaisan reste celui qui maîtrise le mieux cette piste dans le camp helvétique. Régulier depuis le début de la saison avec 2 sixièmes places suivies de 2 septièmes rangs, Loïc Meillard espère lui aussi pouvoir enfin accrocher le podium. Enfin, Ramon Senhuizen en décrochage depuis le début de l'hiver essayera de reprendre un peu de confiance avant les Jeux Olympiques. Mais bien malin donc, qui pourrait donner le vainqueur de ce slalom, tant cette année les favoris sont absents. Entre les sorties de piste du Français Clément Noël, les mauvaises performances du dernier vainqueur du Gros Globe, Alexis Pinturault, et la perte de vitesse du Norvégien Henrik Kristoffersen, 4 fois vainqueur à Schladming, ne reste que Lucas Broughton pour prétendre à un statut de leader. Mais cette situation pourrait donc sourire aux Suisses, et on peut espérer une belle surprise ce soir à Schladming.
Les précisions de notre envoyé spécial à Schladming, Jan Esler, Rafael Nadal, vainqueur au bout d'un marathon. L'Espagnol a remporté aujourd'hui son quart de finale à l'Open d'Australie de tennis contre le Canadien Denis Shapovalov. Il s'est imposé après 5-7 et 4-8 d'un âpre combat 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 et 6-3. En demi-finale, il défiera le vainqueur du duel qui se tient en ce moment entre le Français Gaël Monfils et l'Italien Matteo Berrettini. Chez les dames, la numéro 1 mondiale Ashley Barty n'y est pas allée de main morte. L'Australienne a écrasé aujourd'hui l'Américaine Jessica Pegula 6-2, 6-0. Elle valide son ticket pour les demi-finales où elle défiera une autre américaine, Madison Keys.